Chapitre 2. Dans le mois de février 1764, la France avait commencé un établissement aux îles Malouines. L'Espagne revendiqua ces îles comme étant une dépendance du continent de l'Amérique méridionale, et son droit ayant été reconnu par le roi, je reçus l'ordre d'aller remettre nos établissements aux Espagnols et de me rendre ensuite aux Indes orientales en traversant la mer du Sud entre les tropiques. On me donna pour cette expédition le commandement de la frégate La Boudeuse, de 26 canons de 12, et je devais être joint aux îles Malouines par la flûte L'Étoile, destinée à m'apporter les vivres nécessaires à notre longue navigation et à me suivre pendant le reste de la campagne. Le retard que diverses circonstances ont mis à la jonction de cette flûte avec moi a allongé ma campagne de près de 8 mois. Dans les premiers jours du mois de novembre 1766, je me rendis à Nantes où la Boudeuse venait d'être construite et où M. Duclos Guyot, capitaine de Brulot, mon second, en faisait l'armement. Je la trouvai arquée de 7 pouces, ce qui provenait de ce qu'il s'est formé un banc à l'endroit où elle a été lancée à l'eau. Le 5 de ce mois, nous descendîmes de Paimbœuf à Mindin pour achever de l'armée, et le 15, nous fîmes voile de cette rade pour nous rendre à la rivière de la Plata. Je devais y trouver les 2 frégates espagnoles, la Esmeralda et la Liebre, sorties du Ferrol le 17 octobre, et dont le commandement était chargé de recevoir les îles Malouines au nom de Sa Majesté catholique. Le 5, à midi, nous appareillâmes de la rade de Brest. Je fus obligé de couper mon câble à 30 brasses de l'ancre, le vent d'est très frais et le jusant empêchant de virer à pic et me faisant appréhender d'abattre trop près de la côte. Mon état-major était composé de 11 officiers, 3 volontaires et l'équipage de 203 matelots, officiers mariniers, soldats, mousses et domestiques. Monsieur le prince de Nassau-Siegen avait obtenu du roi la permission de faire cette campagne. À 4 heures après-midi, le milieu de l'île d'Ouessant me restait au nord car nord-est du compas à la distance d'environ 5 lieues et demie, et ce fut d'où je pris mon point de départ sur le Neptune français dont je me suis toujours servi dans le cours du voyage. Pendant les premiers jours, nous eûmes assez constamment les vents d'ouest, nord-ouest et sud-ouest, grand frais. Le 14, à 7 heures du soir, le vent étant assez frais à l'est-sud-est et la mer très grosse de la partie de l'ouest et du nord-ouest, dans un roulis, le bout de bâbord de la grande vergue entra dans l'eau d'environ 3 pieds, ce que nous n'aurions pas cru possible, la vergue étant haute. Le 17 après-midi, on eut connaissance des salvages, le 18 de l'île de Palme et le 19 de l'île de Fer. Ce qu'on nomme les salvages est une petite île d'environ 1 lieue d'étendue de l'est à l'ouest. Elle est basse au milieu, mais à chaque extrémité s'élève un mondrin, une chaîne de roches, dont quelques-unes paraissent au-dessus de l'eau, s'étend du côté de l'ouest à 2 lieues de l'île. Il y a aussi du côté de l'est quelques brisants, mais qui ne s'en écartent pas beaucoup. La vue de cet écueil nous avait averti d'une grande erreur dans l'estime de notre route. Mais je ne voulus l'apprécier qu'après avoir eu connaissance des îles Canaries, dont la position est exactement déterminée. La vue de l'île de Fer me donna avec certitude cette correction que j'attendais. Le 19 à midi, j'observais 28 degrés 2 minutes de latitude boréale, et en la faisant cadrer avec le relèvement de l'île de Fer pris à cette même heure, je trouvais une différence de 4 degrés 7 minutes, valant par le parallèle de 28 degrés 2 minutes environ 72 lieues, dont j'étais plus est que mon estime. Cette erreur est fréquente dans la traversée du Cap Finistère aux Canaries, et je l'avais éprouvée en d'autres voyages, les courants par le travers du détroit de Gibraltar portant à l'est avec rapidité. J'eus en même temps occasion de remarquer que les salvages sont mal placés sur la carte de M. Belin. En effet, lorsque nous en eûmes connaissance le 17 après-midi, la longitude que nous donnait leur relèvement différait de notre estime de 3 degrés 17 minutes à l'est. Cependant, cette même différence s'est trouvée le 19 de 4 degrés 7 minutes en corrigeant notre point sur le relèvement de l'île de Fer dont la longitude est déterminée par des observations astronomiques. Il est à remarquer que pendant les 2 jours écoulés entre la vue des salvages et celle de l'île de Fer, nous avons navigué avec un vent large, frais et assez égal, et qu'ainsi il doit y avoir eu bien peu d'erreurs dans l'estime de notre route. D'ailleurs, le 18, nous relevâmes l'île de Palme au sud-est quart ouest corrigé, et selon M. Belin, elle devait nous rester au sud-ouest. J'ai pu conclure de ces 2 observations que M. Belin a placé l'île des salvages 32 minutes environ plus à l'ouest qu'elle n'y est effectivement. Au reste, sur la carte anglaise du docteur Halley, cette île des Salvages est placée 30 lieues encore plus à l'ouest que sur celle de M. Belin. Je pris donc un nouveau point de départ le 19 décembre à midi. Notre route n'eut depuis rien de particulier jusqu'à notre atterrage à la rivière de la Plata. La nuit du 17 au 18 janvier, nous prîmes deux oiseaux, dont l'espèce est connue des marins sous le nom de charbonniers. Ils sont de la grosseur d'un pigeon, ils ont le plumage d'un gris foncé, le dessus de la tête blanc, entouré d'un cordon d'un gris plus noir que le reste du corps, le bec effilé, long de 2 pouces et un peu recourbé par le bout, les yeux vifs, les pattes jaunes, semblables à celles des canards, la queue très fournie de plumes et arrondie par le bout, les ailes fort découpées et chacune d'environ 8 à 9 pouces d'étendue. Les jours suivants, nous vîmes beaucoup de ces oiseaux. Depuis le 27 janvier, nous avions le fond, et le 29 au soir, nous vîmes la terre, sans qu'il nous fût permis de la bien reconnaître, parce que le jour était sur son déclin et que les terres de cette côte sont fort basses. La nuit fut obscure, avec de la pluie et du tonnerre. Nous la passâmes en panne sous les huniers, tous les ris pris et le cap au large. Le 30, les premiers rayons du jour naissant nous firent apercevoir les montagnes des Maldonades. Alors, il nous fut facile de reconnaître que la terre vue la veille était l'île de Lobos. Les Maldonades sont les premières terres hautes qu'on voit sur la côte du Nord après être entrées dans la rivière de la Plata, et les seules presque jusqu'à Montevideo. À l'est de ces montagnes, il y a un mouillage sur une côte très basse. C'est une anse en partie couverte par un îlot. Les Espagnols ont un bourg aux Maldonades avec une garnison. On travaille depuis quelques années dans ces environs une mine d'or peu fiche. On y trouve aussi des pierres assez transparentes. À 2 lieues dans l'intérieur est une ville nouvellement bâtie, peuplée entièrement de Portugais déserteurs et nommée Pueblo Nuevo. Le 31, à 11 heures du matin, nous mouillâmes dans la baie de Montevideo par 4 brasses d'eau, fond de vase molle et noire. Nous avions passé la nuit du 30 au 31 mouillés sur une ancre par 9 brasses même fond à 4 ou 5 lieues dans l'est de l'île de Flore. Les 2 frégates espagnoles destinées à prendre possession des îles Malouines étaient dans cette rade depuis 1 mois. Leur commandant, Don Felipe Ruiz Puente, capitaine de vaisseau, était nommé gouverneur de ces îles. Nous nous rendîmes ensemble à Buenos Aires afin d'y concerter avec le gouverneur général Don Francisco Bucarelli les mesures nécessaires pour la cession de l'établissement que je devais livrer aux Espagnols. Nous n'y séjournâmes pas longtemps et je fus de retour à Montevideo le 16 février. Nous avions fait le voyage de Buenos Aires, monsieur le prince de Nassau et moi, en remontant la rivière dans une goélette. Mais comme, pour revenir de même, nous aurions eu le vent debout, nous passâmes la rivière vis-à-vis de Buenos Aires, au-dessus de la colonie du Saint-Sacrement, et fîmes par terre le reste de la route jusqu'à Montevideo, où nous avions laissé la frégate. Nous traversâmes ces plaines immenses, dans lesquelles on se conduit par le coup d'œil, dirigeant son chemin de manière à ne pas manquer les guets des rivières, chassant devant soi 30 ou 40 chevaux, parmi lesquels il faut prendre avec un lac son relais lorsque celui qu'on monte est fatigué, se nourrissant de viande presque crue, et passant les nuits dans des cabanes faites de cuir où le sommeil est à chaque instant interrompu par les hurlements des tigres qui rôdent aux environs. Je n'oublierai de ma vie la façon dont nous passâmes la rivière de Sainte-Lucie, rivière fort profonde, très rapide et beaucoup plus large que n'est la Seine vis-à-vis des Invalides. On vous fait entrer dans un canot étroit et long, et dont un des bords est de moitié plus haut que l'autre. On force ensuite 2 chevaux d'entrer dans l'eau, l'un à tribord, l'autre à bâbord du canot, et le maître du bac, tout nu, précaution forçage assurément, mais peu propre à rassurer ceux qui ne savent pas nager, soutient de son mieux au-dessus de la rivière la tête des 2 chevaux, dont la besogne alors est de vous passer à la nage de l'autre côté, s'ils en ont la force. Don Ruiz arriva à Montevideo peu de jours après nous. Il y vint en même temps 2 goélettes chargées l'une de bois et de rafraîchissement, l'autre de biscuits et de farine, que nous embarquâmes en remplacement de notre consommation depuis Brest. On avait employé le temps du séjour à Montevideo à calfater le bâtiment, à raccommoder le jeu des voiles qui avait servi pendant la traversée et à remplir d'eau les barriques d'armement. Nous mîmes aussi dans la cale tous nos canons, à l'exception de 4 que nous conservâmes pour les signaux, ce qui nous donna de la place pour prendre à bord une plus grande quantité de bestiaux. Les frégates espagnoles étant également prêtes, nous nous disposâmes à sortir de la rivière de la Plata.